Vous êtes sur RTL.
Passez une bonne journée et un bel été avec RTL. Chemin d'écrivain, Bernard Lehu.
Bonjour, pour notre dernier rendez-vous de l'été 2019, je vous emmène à Lyon en compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt. Les livres de l'auteur d'Oscar et la Dame Rose sont plébiscités par les lecteurs. Ses pièces de théâtre, La Nuit de Valognes ou Variations énigmatiques par exemple, sont jouées dans le monde entier. Le 4 septembre prochain, l'écrivain publiera son nouvel ouvrage, Journal d'un amour perdu. Il y parle de sa mère, disparue il y a 2 ans, et de Lyon, là où il a grandi, sa ville maternelle, comme il l'écrit. Rejoignons Éric Emmanuel Schmitt à Lyon.
C'est-à-dire qu'en fait, ma mère est comme la figure tutélaire de Lyon, bien plus que
Notre-Dame de Fourvière.
Que Notre-Dame
qu'elle incarne mieux la ville que Notre-Dame de Fourvière. Mais blasphème.
Non, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des valeurs d'amour, d'harmonie, de douceur. Et ma mère était tout ça. Et j'ai de plus en plus l'impression qu'en fait, les toits roses de Lyon, c'est les couleurs des vêtements de ma mère, que le bleu ciel, soit du ciel, soit parfois un peu plus assombri des eaux, c'est aussi ses couleurs. Je pense que, en fait, mes parents m'ont offert cette ville quand j'étais petit. Nous habitions sur les hauteurs de Fourvière. Vous savez, Lyon, il y a deux collines, hein. Fourvière, la Croix-Rousse. Fourvière, c'est la colline qui prie, et la Croix-Rousse, c'est la colline qui travaille. Moi, je suis né sur la colline qui prie, ça, ce qui favorise les tempéraments rêveurs et contemplatifs. Et mes parents avaient un appartement dans un immeuble qui donnait sur Lyon. J'avais Lyon à mes pieds pendant toute mon enfance. Lyon qui m'était offert comme un spectacle. Lyon qui m'était offert comme une scène, finalement. Et je me dis toujours que, aux racines sans doute du fait que je suis dramaturge et philosophe, il y a ce petit garçon sur son balcon lyonnais qui voyait l'univers de loin comme un philosophe, en l'observant, l'analysant, et puis qui le voyait comme une grande scène sur laquelle il se passait des choses. Je suis sûr que ça a influencé le reste de mon existence, ce balcon donnant sur Lyon.
Nous sommes au pied de ce balcon, oui. Puisque là, pour l'instant, à l'instant présent, nous sommes place Bellecour. C'est le cœur battant de Lyon.
Ah oui, depuis la Renaissance. Avant, c'était des marécages. À cause des crues de la Saône et du Rhône. Puis ces marécages ont été asséchés et c'est devenu le centre de Lyon. C'est le point zéro quand on calcule une distance par rapport à Lyon, c'est par rapport à la place Bellecour. Et quand on est un enfant lyonnais, ben, on a connu ses premiers pigeons sur la place Bellecour. On a lancé ces petits voiliers sur les bassins de la place Bellecour qu'on entend. On avait l'impression d'être dans la grande ville en allant dans les magasins, les librairies. Dans mon enfance, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et c'est, avec un petit orgueil lyonnais, une des plus grandes places de France. Hein. C'est bon, la classe 4e ou 5e pour sa taille, et en tout cas la plus grande piétonne. Alors je vous propose de traverser cette place pour aller à travers ces rues étroites qui sont parfois assez lyonnaises aussi, peut-être au Théâtre des Célestins. Parce que ça, dans les grands souvenirs de Lyon, il y a le Théâtre des Célestins. Moi, ce théâtre-là a été le lieu de ma découverte du théâtre et de mon éblouissement.
Alors voilà, nous sommes arrivés devant ce Théâtre des Célestins. Est-ce que je peux dire que le dramaturge et l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt est peut-être né ici ?
Ah oui. Parce que dans toute vie, il y a une première fois. Et moi, la première fois où je suis allé au théâtre, c'est ici, au Théâtre des Célestins. Maman achète 2 places, une pour ma grande sœur, une pour moi. Je ne me rends pas compte qu'en fait, elle se sacrifie parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour en acheter 3. Et elle nous offre Cyrano de Bergerac, joué par Jean Marais. Moi, j'ai 10, 11 ans et je vais d'éblouissement en éblouissement. Je découvrais l'artifice, c'est-à-dire l'oscillation entre le vrai et le faux. C'est tout le bonheur du théâtre, c'est-à-dire je me rendais compte qu'en fait, la scène avait besoin de moi pour exister totalement, c'est-à-dire qu'elle avait besoin de mon consentement, il fallait que j'y croie. Donc moi aussi, j'avais mon rôle comme spectateur à jouer. Puis alors après, j'ai été ébloui par la langue, évidemment, d'Edmond Rostand. J'ai éprouvé, en face de Jean Marais, qui jouait Cyrano de Bergerac, ma première émotion, je dirais, philanthropique. Je me suis passionné pour un destin qui n'était pas le mien, le destin de Cyrano, qui pense qu'il n'est pas aimé. Moi, j'étais un petit garçon très aimé. Et donc, grande chance, j'ai jamais douté d'être aimable, ce qui était vraiment un grand cadeau dans la vie. Et tout d'un coup, ce Cyrano, qui est beaucoup plus beau que moi, qui est beaucoup plus brillant, qui est virtuose à la fois de l'épée et des mots, il pense qu'aucune femme ne pourra jamais l'aimer. Et ça, ça me bouleverse. Et donc, je suis en larmes. Et quand la lumière se rallume, non seulement les morts se relèvent pour saluer, mais je me rends compte que tous les adultes autour de moi sont en larmes. Et je me suis dit, j'adore cet endroit. Ma mère nous attend au bas de l'escalier. Et elle me dit, tu as aimé? Je lui dis, j'ai adoré. Je lui dis, je veux faire ça plus tard. Elle me dit, tu veux faire quoi? Je lui dis, je veux faire pleurer tout le monde. Elle me dit, ah bon, tu veux être acteur comme Jean Marais? Et moi, je regarde l'affiche et je dis non, je veux faire Edmond Rostand. Le lendemain, on m'achetait le livre. Une semaine après, je savais par cœur. Et c'était parti pour toute la vie.
On entre dans ce théâtre des Célestins.
Ça a beaucoup changé. C'est bien, ça limite l'émotion. Ils ont complètement changé l'entrée. Ouais. Mais il faut que le théâtre change en même temps. Il ne faut pas qu'il soit figé. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je suis revenu régulièrement ici. Et figurez-vous que moi, qui ai été joué dans le monde entier, dans les plus beaux théâtres, je n'ai jamais eu une de mes pièces au Célestin. Je ne dis pas fort, j'ai peur que le théâtre se vexe. En tout cas, moi, je suis vexé.
Quelle sensation quand vous pénétrez dans un théâtre?
Il y a quelque chose pour moi de commun avec le sentiment que j'ai quand j'entre dans une église. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que le monde est agrandi. Il est agrandi aux dimensions de l'infini. Alors ici, c'est l'infini des histoires qu'on peut raconter dans un théâtre, dans une église, c'est l'infini de Dieu. Mais j'ai un frisson sacré.
Alors cette salle, ce lieu sacré, on y va? Donc là, on prend le grand escalier.
Longtemps que j'ai pas monté ces marches. Je savais qu'un jour j'y reviendrais, je savais pas que ce serait avec vous pour vous faire découvrir ce théâtre, ça me plaît.
La suite, en fait. Donc là c'est la dernière partie pour moi, c'est-à-dire le retour...
Nous sommes en chuchote, puisque nous sommes à l'entrée de la salle et il y a des répétitions.
Et alors, quand on joue une pièce, comme moi ça m'arrive depuis quelques années, en jouant soit Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, soit Madame Pinesca et Secret de Chopin, je passe l'après-midi dans la salle à l'apprivoiser et à faire en sorte qu'elle soit d'accord pour que je raconte mon histoire et que je fasse mon spectacle chez elle. Ouais, c'est une personne, une salle.
Bon, mais il faut quitter cet endroit. Pourtant, je sens que vous y étiez heureux.
Moi, j'ai la prétention de penser que dès que je suis dans un théâtre, je suis chez moi. En fait, c'est chez personne, et c'est chez tout le monde.
Alors, quelle est la prochaine et, je crois, la dernière étape de votre chemin d'écrivain à Lyon, Éric-Emmanuel Schmitt?
Eh bien, je vous propose de traverser la Saône et de faire quelques pas dans le vieux Lyon.
Alors, on part par là. Allez, on y va. C'est charmant, on est en plein été, la place des Célestins est pleine d'enfants.
Oui, c'est normal, il y a des fontaines, des bassins, donc c'est nécessaire vu la chaleur.
Nous allons traverser la Saône, nous sommes sur quelle passerelle ici? C'est un peu l'équivalent du pont des Arts à Paris, non?
Le pont des Arts, exactement, et quand j'étais petit, j'avais très peur de cette passerelle parce qu'elle bouge avec le vent. C'est une structure extrêmement souple, en fait. Mais moi, je confondais souplesse et fragilité.
C'est une autre ville dans laquelle nous pénétrons.
Ah oui.
C'est aussi l'un des charmes de Lyon, une ville multiple.
C'est une ville tout d'un coup de pavés, avec la rigole au milieu, qui était l'ancien égout. C'est une ville qui n'a pas bougé depuis la fin du Moyen-Âge. Et c'est surtout une des villes, je pense, les plus stratifiées. Il y a différentes époques qui sont là en permanence. C'est pas du tout une ville musée, c'est une ville qui a conservé tous ses âges et qui permet à un individu qui marche dans Lyon de pas seulement marcher dans Lyon, mais de marcher dans le temps.
Alors ce vieux Lyon, c'est aussi le quartier des églises. Et là, il y en a une là, qui se dresse devant nous, l'une des plus célèbres.
Oui, la cathédrale Saint-Jean. Lyon, c'est une ville de foi. Alors bien sûr, moi j'ai poussé dans cette ville-là. Moi j'étais athée dans une famille athée. Puis bon, un jour j'ai reçu la foi et mon rapport à toutes ces églises a changé. Mais je sais que par exemple ici, vous voyez, sur le parvis de la cathédrale, j'avais vécu un grand moment, c'était à Noël. Je revenais de mon lycée, puisque je passais tous les jours ici. Et devant la cathédrale, il y avait un chœur et qui chantait. C'était la Veverum de Mozart. Et je me suis mis à pleurer. Pleurer parce que c'était beau. Mais pleurer parce que ça racontait quelque chose. Ça disait que vous croyez ou pas, il y a quelque chose au cœur de l'hiver qui existe, c'est la solidarité des hommes. Le fait que les hommes se mettent ensemble, se réunissent, allument des lumières et célèbrent la vie. Alors, la naissance de la vie pour les chrétiens, d'autres lumières pour les juifs. Mais tout d'un coup, c'était l'essentiel, je dirais transreligieux, qui m'était délivré. Attendez.
Alors, nous étions au théâtre tout à l'heure. Nous sommes dans la nef de Saint-Jean. Est-ce que ce sont des lieux où vous vous arrêtez souvent ?
Oui. Depuis toujours. Quand je n'avais pas la foi, je m'arrêtais déjà dans les églises pour me recueillir, pour peut-être pour me retirer du monde, pour chercher la paix, la concentration, essayer de retrouver l'essentiel. C'était un refuge.
Éric-Emmanuel Schmitt, cette déambulation dans Lyon se termine. Si vous aviez une musique, une chanson à nous proposer et qui serait en harmonie avec ce chemin que nous venons de parcourir, qu'est-ce que vous choisissez ?
En fait, j'ai envie de vous proposer une chanson qui serait plutôt en harmonie avec ce que j'ai évoqué plusieurs fois pendant cet entretien, c'est-à-dire Lyon, ma ville maternelle, la ville de ma mère. Et cette mère qui est partie il y a 2 ans, il y a une chanson de Barbara qui me bouleverse, qui s'appelle « Attendez que ma joie revienne ». C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la douleur et de l'optimisme. Moi, je dois avouer que j'ai vécu ces 2 années que je raconte dans le journal d'un amour perdu, je les ai vécues ainsi. J'étais dans une immense tristesse, mais je n'ai jamais douté que la joie reviendrait, parce que la joie, c'était un des cadeaux que m'avait fait ma mère. Elle m'a pas seulement fait le cadeau de la vie, elle m'a fait le cadeau de la vie belle et heureuse. Et quand elle est partie, je me suis senti un devoir de bonheur. Il fallait que je continue à vivre, mais pour lui être fidèle, il fallait aussi que je continue à être heureux.
Attendons que ma joie revienne et que se meure le souvenir.
C'était Le chemin d'écrivain d'Éric-Emmanuel Schmitt à Lyon. Le livre qu'il consacre à sa mère, Journal d'un amour perdu, paraîtra le 4 septembre chez Albin Michel. Éric-Emmanuel Schmitt reprendra par ailleurs son spectacle Madame Pilinska et le secret de Chopin à Paris, au théâtre Rive Gauche, à partir de jeudi prochain, 29 août. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que tous les autres chemins d'écrivain diffusés cet été en podcast et sur RTL.fr. Demain matin, c'est la rentrée sur nos ondes avec le retour d'Yves Calvi et de Laissez-vous tenter, votre rendez-vous culture. C'est sur RTL et c'est à 9h. Bon après-midi.
Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime. Trop tôt pour te l'entendre dire.
Barbara, le choix musical d'Éric-Emmanuel Schmitt pour le dernier chemin d'écrivain de l'été avec Bernard Lehu, c'était passionnant comme tous les ans. 12h58 sur RTL, une courte pause et Valérie Quintin nous rejoint dans un instant pour faire le point sur la météo du jour.
Quentin Vinet,
RTL Midi, en partenariat.